France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, dans les bandes du rock. Troisième épisode, 2-3 légendes du système rock. En juillet 1992, le producteur Sylvain Gir revient sur France Culture à la question que nous nous posons nous aussi depuis le début de cette série. Qu'est-ce donc que le rock à la française? Et il n'est pas forcément très amène vis-à-vis du rock bleu-blanc-rouge.
Le lundi dans les jambes, le mardi dans les bras, mercredi sous la langue et jeudi, vendredi au lit et samedi aussi, le dimanche à la messe, même le dimanche à la messe. Demain, j'arrête de...
Guitare, défonce, gaudriole. Le groupe Bernadette Soubirous et ses apparitions est bien à l'image d'un certain rock français. Folklorique, certes, exaltant un moment, mais à force lassant. Le rock qui nous occupe ce soir est plutôt tiraillé entre l'admiration pour le modèle anglo-saxon et sa volonté de se trouver ses propres racines.
Dans les deux premiers épisodes de cette salle des archives, nous avons d'abord exploré la traduction française du rock anglo-saxon avec le moment yéyé. Et puis nous avons parlé de la British Invasion qui a déferlé sur le monde en même temps que sur nos côtes depuis l'autre rive de la Manche et qui a eu lieu en même temps qu'une autre déferlante, l'American Invasion, plus spectaculaire encore. À chaque fois, le rock hexagonal semblait un peu en marge, mineur ou sous influence par rapport à ses impressionnants cousins. Et pourtant, il compte aussi, ce rock français, un certain nombre de légendes, des groupes, des lieux, des magazines, des chroniqueurs musicaux qui ont marqué son existence et dont nous allons parler aujourd'hui. Mais je dois vous le dire tout de suite, nous avons dû faire des choix drastiques à partir des archives disponibles sur la période. On vous propose donc ici quelques instantanés du paysage, davantage qu'un panorama complet, cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant.
Dans les bandes du rock, une série en 6 épisodes de Salle des archives, proposée par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire, attachée de production Lily Corner.
Des grands groupes de rock en France, il y en a plein. Les Bérus, Indochine, Trust, Taxi Girl, Louise Attaque, La Femme, Mano Negra, Chaka Ponk, les Vampas, Bijoux, les Rita Mitsuko, les Calamités, Niagara en sont des exemples. Et puis il y a ceux qui ont fait la route en solo, Bachung, Miossec, Jeanne Haddad, Dominique A, Mademoiselle K, bien d'autres. Mais chronologiquement, la première vraie grande légende du rock français, ce sont eux.
Ouais, mais je crois que quand on arrive à 6 ans d'expérience, six ans de vie en commun, quoi, 6 ans de groupe, ça commence à intéresser les gens, comment on pourrait s'engueuler et se dissoudre. Ça les intéresse de plus en plus cette année.
Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent souvent?
Ça dépend, il y a des questions qui reviennent souvent pour chacun. Pour chacun, moi, c'est quelquefois à propos des paroles ou c'est des questions un peu qu'on pose aux chanteurs. Un peu d'ordre général. Chez Corinne, c'est souvent sa féminité par rapport à... il y a des questions qui reviennent souvent. Et la question la plus horrible, c'est pourquoi téléphone quand même? Ça reste là, celle qui gagne le fond.
Alors, pourquoi avoir choisi téléphone?
La question.
C'est une question stupide. J'ai plein de raisons, on a tous plein de raisons, mais la vraie réponse, c'est pour avoir un nom. Parce que pourquoi avoir choisi Jean-Louis? Moi, j'ai pas choisi Jean-Louis, quoi. Je fais avec.
Alexis Berny, vous êtes directeur de la publication de Tsugi, directeur de la salle Le Trabendo à Paris, co-auteur des livres Rock la France, 60 ans de guitare et d'électricité, et Alain Pacadis, itinéraire d'un dandy punk qui vient d'ailleurs d'être réédité aux éditions Le Mot et le Reste. Est-ce que vous diriez que Téléphone a une place à part dans le cœur des Français ?
Ça, c'est certain. Même si c'est pas le premier groupe de rock français et c'est pas forcément le plus inventif. Parce que Téléphone jouait du rock assez classique, inspiré par les Stones, et il le faisait très bien.
C'est mais peut-être pour ça qu'il avait une grande audience aussi.
C'est tout à fait. Après, il y a eu avant, même un peu avant Téléphone, tout un tas de groupes très underground qui parfois avaient un son beaucoup plus original. Moi, je pense par exemple à un groupe qui m'est cher qui s'appelle Metal Urbain. Mais Téléphone, c'est effectivement le grand départ du rock français. À l'époque où il y a quand même très peu de choses et très très peu de structures.
Alors justement, est-ce que ça change pas cet énorme succès de Téléphone, l'écosystème du rock en France ?
Si, si, tout à fait. Je crois que c'était vraiment la préhistoire à l'époque. Par exemple, le gros problème pour les groupes de rock, c'était de trouver des ingénieurs du son dans les studios, capables de les enregistrer et de les faire sonner. Parce que c'était pas du tout la tradition française. La tradition française, c'était d'enregistrer des artistes de variété ou du jazz avec des ingénieurs du son qui étaient des gens très austères, souvent pendant longtemps avec des blouses blanches et des petits stylos Bic dans la poche. C'était quelque chose de pas du tout drôle. Il fallait absolument pas que l'aiguille bascule dans le rouge. Et bon, pour le faire sonner du rock, voilà.
Donc on n'avait pas les compétences.
On n'avait pas les compétences techniques pour faire sonner cette musique et l'enregistrer. Et la grande obsession de Téléphone, c'était de pouvoir aller enregistrer en Angleterre, ce qu'ils ont pu faire dès leurs premiers albums. Après, il y a d'autres histoires assez étonnantes sur cette dimension peu organisée. C'est toutes les pratiques, les combines qu'il y avait à l'époque, notamment pour le passage à la radio.
Qui était évidemment essentiel à ce moment-là.
Ce qui était essentiel, mais bien sûr, évidemment. Mais c'est dans le livre de Jean-François Ravard qui a été leur manager, qui a vraiment été le cinquième téléphone, et qui raconte ça, parce qu'il y a prescription maintenant, mais il raconte comment sur une station RTL, voilà, un animateur propose de faire passer Téléphone très régulièrement, mais en échange de 50% des droits d'édition du groupe. C'était une pratique courante à l'époque.
Le premier album de Téléphone, il date de 1977 et le sommet de leur carrière musicale, c'est Cœur de la nuit en 1981 avec notamment ce tube Argent trop cher. Il y a un côté quand même Rolling Stone chez Téléphone.
Effectivement, leur grande obsession, c'était les Stones, c'était leur référence absolue. Je me souviens qu'à l'époque, on nous racontait que Téléphone faisait des tournées triomphales aux États-Unis. Moi, je le gobais comme tout gamin. Bon, en réalité, les tournées triomphales, ça voulait dire faire 3 dates dans des ambassades de France devant des expats. Mais bon, ça n'empêche pas que le groupe était quand même extrêmement populaire en France. Ils ont ouvert pour les Stones à Longchamp.
Parfois, ils pouvaient, dit-on, éclipser un petit peu, alors qu'ils n'étaient que la première partie de grands groupes.
Au début, tout à fait.
Éclipser la deuxième partie.
Alors, tout à fait. Non, ça, c'est arrivé au tout début, parce qu'il y a eu, ça a pris très très vite, et notamment il y a un concert célèbre avec Eddie and the Hot Rods, qui était un des groupes de pub rock, c'est-à-dire pré-punk anglais, dont ils se sont retrouvés à faire la première partie et qu'ils ont complètement éclipsé. Ils ont joué aussi, ils ont remplacé Blondie au pied levé pour jouer à l'Olympia en première partie de Television, et ça a été un succès énorme aussi. Il y a eu des rappels, ce qui est quasiment inexistant dans un groupe, pour un groupe de première partie, à l'époque et maintenant. Et puis c'était quand même un très bon groupe de scène. Je persifle, je raconte des bêtises en parlant des tournées américaines qui étaient moins flamboyantes qu'on veut bien le dire. Mais le groupe était quand même très efficace.
Et puis ils ont joué partout à leur début, sans hésiter à aller dans des gymnases, dans des collèges, dans des MJC, même dans la chambre, froide désaffectée d'un boucher.
Et une station de métro, parce qu'ils ont joué, il y a un concert célèbre à la station République, qui a causé une sorte d'émeute incroyable.
En décembre 1977, Téléphone donne un concert au Pavillon de Paris, c'est-à-dire en fait dans les anciens abattoirs de la Villette. Évidemment, ils sont jeunes et arrogants, le succès déferle sur eux, la maison de disques est à leurs pieds. Le rapport de force est donc en leur faveur, et quand ils annoncent à leurs producteurs qu'ils veulent que ce concert soit gratuit, ces derniers sont plus ou moins forcés de s'incliner. Comme le lieu est plein à craquer, que l'ambiance est totalement électrique, eh bien les fans deviennent fous et ils saccagent tout en sortant du concert, si bien que deux rames de métro devront partir le lendemain pour un petit rafraîchissement dans les ateliers de la RATP. Plus tragique et moins anecdotique, un homme se retrouve poignardé en marge de l'événement à cause d'une sombre histoire de deal. Cette soirée et tout ce qui s'y est passé, que ce soit sur scène comme en dehors, a scellé la légende du groupe Téléphone. Ici, laissez-moi vous faire un petit aparté en ce qui concerne nos recherches dans la salle des archives. Il faut vous imaginer qu'on parle ici d'une salle immense, avec des rayonnages qui montent jusqu'au plafond, et même plus haut que le plafond, parce qu'il y a des coursives, des échelles, des escaliers en fer qui permettent de grimper plus haut, toujours plus loin, dans le passé des archives. Pour s'y retrouver, il faut utiliser un système de classement avec des mots-clés. Sauf que quand votre mot-clé c'est « téléphone », eh bien j'aime mieux vous dire que vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Parce que des mentions du mot « téléphone » dans la salle des archives, eh bien il y en a des millions. Pour ceux qui l'auraient oublié, je rappelle simplement que chaque jour sur France Inter depuis 1977, il existe une émission qui s'appelle, je vous le donne en mille, « Le téléphone sonne ».
Le téléphone sonne.
Évidemment, ça brouille un peu la recherche. On aurait préféré que les téléphones s'appellent les bigophones ou les taxiphones, ça nous aurait bien facilité la tâche. J'ajoute que durant des décennies, il était également précisé sur tous les descriptifs des archives quand les interviews avaient été faites par téléphone. Autant vous dire que pour retrouver un événement précis dans cet océan de téléphones, il faut faire pas mal d'allées et venues entre les étagères de la salle des archives et on en sort avec des toiles d'araignée dans les cheveux. Tout cela pour dire que je n'ai pas retrouvé la mention du fameux concert de la Villette en décembre 1977, de téléphone donc, j'en suis désolé, mais je crois que cette archive n'existe pas de toute façon. Alexis Bernier, qu'est-ce qui fait que Téléphone se distinguait selon vous des autres groupes de rock français ?
Par son énergie, c'est aussi de très très bons musiciens. J'ai Richard Kolinka est un batteur exceptionnel. Le son de guitare était formidable, c'est vraiment, c'est un très très grand guitariste aussi. Et puis, leur chanteur était un excellent mélodiste. Hein.
Est-ce qu'il représentait pas, à ce moment-là, l'antivariété aussi ?
L'antivariété, je crois que plein de gens, plein d'autres gens la racontaient, parce qu'avant Téléphone, il y a quand même eu la scène punk française.
Non, mais une antivariété, finalement pas si éloignée que ça de la variété, c'est-à-dire le plus acceptable dans la transgression.
Oui, et puis d'album en album, c'est devenu beaucoup moins rock. Le dernier succès de Téléphone, c'était quand même pas très rock. Hein. Donc effectivement, oui, c'était, on frôlait le mainstream. Enfin, je veux dire, on frôlait la chanson rock. Voilà.
Le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrais.
C'est donc avec un groupe au nom vraiment bizarre que la France a décroché son premier vrai groupe de rock populaire. Louis Bertignac, Corinne Marieno, Jean-Louis Aubert et Richard Kolinka ont conquis non seulement les fans de musique, mais aussi une grande partie de la jeunesse et quelques parents qui passaient par là. À tel point qu'un animateur télé comme Guy Lux, qui était plutôt porté sur le public, disons, familial et consensuel, avait décidé de les inviter dans son émission. Les téléphones y sont allés, mais en se bouchant le nez, ce qui n'était pas très gentil pour les téléspectateurs. Jean-Louis Aubert, le chanteur, racontait tout cela à la radio en octobre 1982.
Des fois, pour représenter un disque, on est obligé de faire ces bandes en playback. Ce que je déteste le plus, c'est la télé en playback où on fait semblant de jouer, quoi. On donne l'impression. Par exemple, dans la vidéo de ça, là où il y a cette surprise partie, on joue pas vraiment, mais au niveau des idées qu'on a mis en branle et tout ça, on s'est vraiment amusé à la concevoir puis à la faire. Mais comme Argent trop cher, on en est très fiers. Je trouve qu'on en est, on peut en être presque aussi fiers qu'un disque, quoi. C'est quand même secondaire par rapport au disque, mais ça monte en importance, et c'est normal quand il y a une chanson qu'on va essayer de réaliser pour la télé, on essaie d'avoir des idées marrantes. Alors là, c'est intéressant, mais c'est pas intéressant de faire ce qu'on faisait à Guy Lux, par exemple, et on avait très honte souvent. Mais le disque, c'est quelqu'un qui l'aime, qui l'a acheté, qui le met sur la platine. Tandis que la télévision, oh grande joie, elle arrive chez les gens quand ils sont en train de bouffer, parce qu'ils sont un peu, et qu'ils se prennent tout dans la gueule comme ça, et que tu peux leur envoyer un truc très fort, et ça c'est très différent. Et c'est même pour ça qu'on a choisi de dire ok pour faire Guy Lux quelquefois quand c'était pas trop nul, ou parce qu'on s'est dit il faut qu'on c'est toujours mieux de voir nous que tous les gens qui nous font chier, qu'on n'aime pas et qu'on voit depuis qu'on est tout petit. On est sûr que tous les gens de notre âge, ils aimeront nous voir. Alors on s'est dit, ok, on prend la place, tant pis.
Alexis Bernier, votre regard sur cette archive?
Le rock à la télévision française, c'est un vaste sujet. Bizarrement, il y a quand même des émissions, il y a quand même des choses. Avant Les Enfants du Rock, il y a une émission qui s'appelait Pop 2, par exemple, qui a été incroyable. Ils ont filmé le Velvet Underground, enfin pas vraiment le Velvet, mais un concert de Lou Reed, John Cale et Nico à Paris au Bataclan. Il y a des archives incroyables dans cette émission. Mais c'était des cases très particulières, il y en avait très peu. En revanche, dans les émissions de variété, il y a des choses incroyables. Il y a des pépites, et pas uniquement Téléphone chez Guy Lux. Il y a aussi Métal Urbain chez Aujourd'hui Madame, qui était la grande émission de l'après-midi sur un tas de thématiques féminines.
Ça veut dire quoi qu'il y ait ce genre de musique dans des émissions grand public?
C'était le choc des cultures, parce que comme le dit Jean-Louis Aubert, c'était important, il ne pouvait pas refuser, mais il fallait absolument jouer de son image la plus provocante possible. Et donc, généralement, ces passages sont... Alors, en plus, souvent, parfois, c'est du... La plupart du temps, c'est du playback. Et ça donne lieu à des shows assez croquignolesques. Vous parliez tout à l'heure des Calamités, qui était un excellent groupe pop féminin, qui a été d'ailleurs réédité il y a peu de temps. Les Calamités, je me souviens très bien d'un passage dans l'émission de Stéphane Collaro, qui s'appelait le Cocorico Boy ou le
Cocorico Cowboy.
Voilà. Ouais, bravo.
Je crois qui était pas très féministe, dans son
style. Pas du tout. Il y avait même des nymphettes qui se promenaient à seins nus, voilà. Et on voyait de temps en temps un groupe de rock, comme les Calamités, dans des mises en scène complètement ridicules. Et oui, c'était assez amusant. Mais bon, au moins il y avait un peu de musique de temps en temps. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose.
Laissons les téléphones à leur légende pour évoquer à présent un organe de presse qui a écrit l'histoire du rock dans les années 70 et 80. Je veux parler du journal Libération. Libé avait commencé sur une ligne très politique, gauchiste et tendance Mao, mais était devenu au fur et à mesure des années le quotidien des branchés, des hartis et des dandys. Dans ses rangs, un certain Alain Pacadis portait précisément le surnom de Bambi Dandy. Et c'est vrai qu'il s'habillait tout à fait comme un jeune homme chic, pour reprendre le titre de son livre paru en 1978. Le côté Bambi, c'était plutôt la fragilité de l'homme, traumatisé par la mort de ses parents et notamment de sa mère qui s'était suicidée alors qu'il venait tout juste de sortir de l'adolescence. On retrouve cette figure du milieu du rock dans la salle des archives, en particulier au cours d'un numéro de l'émission « Surpris par la nuit » sur France Culture, c'était en février 2003. L'extrait commence avec la voix d'Alain Pacadis.
Les punks sont contre les babacools, c'est-à-dire les gens à cheveux longs, frikis, les écologistes, tout ce genre de gens. Et moi, j'ai une chronique dans Libération qui s'appelle White Flash, et pendant peut-être un an, toutes les semaines, je rabâchais la même histoire. Nous sommes contre le vert, contre l'écologie, oui, nous sommes pour la ville, pour le bitume, pour l'asphalte, pour le bruit de la ville, c'est-à-dire le rock'n'roll, pour une musique violente, contre les petits oiseaux, contre les Pink Floyd...
Etc, etc.
C'est quelqu'un de très seul, mais qui ne supportait pas d'être seul. Donc, prêt à tous les compromis, uniquement pour être accepté quelque part et par quelqu'un.
Voilà.
Prêt à rendre tous les services.
Jean-Louis Chopin et Marie-France.
Y compris, sortir sous la pluie pour aller acheter une bouteille de vin, traverser tout Paris pour aller voir un dealer alors que tout le monde est malade et que lui l'est aussi. Mais bon, il faut prêt à se dévouer pour toutes les tâches, toutes les corvées.
Enfin, toujours prêt à dépanner en tout cas.
Oui. Mais enfin, bon, il valait mieux rien demander, tu vois.
Alexis Bernier, que pensez-vous de ce portrait d'Alain Pacadis ?
Pacadis, moi j'ai beaucoup de tendresse pour ce personnage que j'ai découvert adolescent en lisant Libération, en fait. Et Libération, comme vous le disiez à juste titre, était vraiment le journal du rock et même de la culture ou de la contre-culture. Et effectivement, Alain Pacadis, qui était un personnage tout à fait improbable, avec cette voix comme ça, très traînante, cette démarche tout aussi dégingandée, ce physique pas très gracieux et en même temps extrêmement reconnaissable. On a l'impression que tout coulait chez lui. Il était toujours en train de s'effondrer un peu. Et qui avait une plume moi qui me fascinait quand j'étais petit, parce que c'était pas du tout construit, c'était écrit au débotté, on a l'impression qu'il était toujours dans l'état second, il y avait un côté chroniqueur de la fange et de la marginalité qui était formidable. Alors même si parfois il signait reporter de l'underground, voilà, il a eu plein de surnoms, mais c'était pas très surveillé, étudié, c'était pas très érudit, mais on y était, on vivait les choses avec lui, c'est ça qui était formidable.
Est-ce que vous le voyez davantage comme un gentil garçon un peu perdu ou comme une teigne de la nuit parisienne, hostile à tout, y compris aux petits oiseaux, comme il le disait dans l'archive?
Non, je le vois pas du tout comme une teigne, certainement pas. Je le vois effectivement comme un garçon un peu perdu, mais aussi comme un garçon extrêmement cultivé. Nous, on l'a utilisé dans ce livre qui vient d'être réédité comme une sorte de fil rouge pour traverser toutes les années 70, parce que avant d'entrer à Libération, il avait fait des études d'histoire de l'art, il avait fait la route avec les hippies, donc il avait été hippie, hein, faut pas, il sait très bien tout ça. Il avait rencontré la scène rock dans un lieu mythique de Paris qui s'appelait l'Open Market, qui était une sorte de magasin hippie, hein, où on trouvait plein d'imports de disques américains. Et ben, tout le rock français est né, en fait.
Quelle a été l'importance, selon vous, pour l'écosystème du rock en France d'Alain Bacadis?
Je pense qu'il a jamais fait signer un groupe. Tout le monde le prenait dans l'industrie du disque pour un abominable zozo. Faut dire qu'il y allait assez fort sur la drogue et l'alcool, et qu'il était souvent, il allait faire des interviews dans un état un peu comateux. Non, c'était pas quelqu'un qui découvrait des groupes et les faisait signer. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui avait eu des histoires d'amitié avec des groupes et une passion pour le rock électrique, le punk, très tôt. Il a martelé, comme il le disait dans l'interview, qu'il y avait une nouvelle scène qui arrivait. Personne n'y croyait. Et puis le punk est arrivé en 77 et a tout emporté, alors qu'il en parlait depuis 76, lui.
Pour se faire une idée de sa plume, voici un extrait d'article d'Alain Bacadis sur l'éclectisme des textes du rock.
L'éclectisme du rock est justifié par l'éclectisme des textes. Pour certains, il ne compte pas. Jan et Dean disent « Si les kids comprenaient nos paroles, ils fermeraient la radio. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Notre musique doit être une compensation de l'anxiété des kids et un moyen d'échapper à leurs parents. » Dans d'autres interviews, ils reconnaissent l'importance des paroles. Au début, le rock a une prédominance monosyllabique, la trame linguistique restant simple. Ainsi, « Come, go with me » des Vikings a des paroles très très simples. « Dom, 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 bi, do, bi, dom, 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 bi, do, bi, dom, 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 bi, do, do, bi, dom, wa, 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 well, I love you, darling, come on, go with me », qui ne va pas si loin du texte de Zara qui répétait un mot 631 fois.
Alexis Bernier, en écoutant cette lecture en archive, on se dit que Bacadis a contribué à donner finalement ses lettres de noblesse au rock. Il en a fait un élément non seulement de culture populaire, mais aussi de culture cultivée, puisqu'il y a par exemple des références ici à Zara.
Mais oui, c'est ça qui est fascinant avec Bacadis. Et quand on entend cette voix, quand on l'entend comme ça de manière très scolaire aussi, on a l'impression d'une thèse, non pas de troisième cycle, mais de terminale. Et en fait, non, à la fin, il cite Zara et de manière très pertinente. Et c'est ça qui faisait le charme de Bacadis. Et puis, évidemment, sa folie, ses histoires et ses excès, et tout ça.
Parmi les lieux que fréquentait Bacadis, il y avait des endroits tenus par le célèbre Fabrice Hémer, pape de la nuit parisienne, le 7, restaurant et club gay de la rue Sainte-Anne, plus tard le Palace. Est-ce qu'on peut parler de ces lieux comme étant des lieux du rock?
Alors, le Palace est un lieu de rock, absolument. Mais c'est pas forcément... D'abord, c'est un lieu de rock parce que si le club Le Palace était un lieu de disco, avec des DJ qui jouaient essentiellement du disco, notamment avec ce grand DJ de l'époque qui était Guy Cuevas, c'était aussi un lieu de concert. Et il y a eu énormément de concerts au Palace, de la même manière qu'il y a eu énormément de concerts au Bain-Douche, qui était arrivé un peu plus tard, qui était le concurrent du Palace. Et c'était des lieux où il y a eu Joy Division, ça c'est au Bain-Douche, mais il y a eu Prince au Palace à l'époque où c'était quand même il était en string de cuir. C'était quand même beaucoup plus rock que par la suite. Il y a eu les Talking Heads. Enfin, il y a eu la liste des groupes qui ont joué au Palace. C'est incroyable, de la même manière que la liste des groupes qui ont joué au Bain-Douche est délirante.
Bon, malgré tout, dans les temples de la branchitude qu'étaient le Set et le Palace, on écoutait un peu davantage de disco que de rock. Au fond, c'est comme si décidément, malgré tout, la France n'était pas un pays où le rock pouvait vraiment poser ses valises. Après Téléphone, c'est comme si la porte du rock pour tous s'était un peu refermée. Et d'ailleurs, en 1992, sur France Culture, le chanteur du groupe Catonoma, Rodolphe Burger, essayait de comprendre le pourquoi du comment de cet étrange phénomène.
En France, il y a la variété et il y a le rock. Tout ce qui est rock, c'est des trucs anglo-saxons. Et de l'autre côté, la variété, c'est Sacha Distel et compagnie, des trucs de la soupe, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un chaînon manquant, tu vois. On n'est pas passé de la variété au rock, tu vois. Il n'y a pas eu de continuité, tu vois. C'est deux trucs différents. Et ça, c'est bizarre, quoi. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est justement, tu vois, raccorder les deux. La musique rock, c'était la musique actuelle, quoi, tu vois. Et dans tous les autres pays, c'est la variété, c'est du rock, quoi, disons. Et en France, non, il y a encore ce truc variété d'un côté et rock de l'autre. Il serait temps qu'on fasse du rock français, tu vois, avec les bases de la chanson française, qui sont des bonnes bases en plus. Style Piaf, Brel et tout ça, quoi.
Alexis Bernier, votre regard sur ce que disait Rodolphe Burger dans cette archive ?
Il a raison et tort en même temps, parce que le rock n'a jamais été un phénomène majeur en France, un phénomène extrêmement populaire, en dehors de périodes de moments à Téléphone, Treuss, ce genre de choses. Bon. Mais il y a eu, dans toute cette histoire, énormément d'excellents groupes de rock, qui sont peut-être des groupes dits underground, mais qui ont eu une importance énorme. Rodolphe parlait de la nécessité de travailler le rock avec une vision française et la langue française. Mais Marquis de Sade, qu'est-ce que c'est d'autre que ça ? Alain Bachung, qu'est-ce que c'est d'autre que ça ? Métal Urbain, dont je parlais tout à l'heure, aussi. Les Béruriers Noirs, aussi. Donc il y a une histoire du rock français.
Si Alain Pacadis a contribué à diffuser une certaine image du rock en France, plutôt dandy et extrême, un autre chroniqueur musical allait avoir une grande influence sur la diffusion de nouveaux groupes. Son nom, c'est Bernard Lenoir, producteur d'émissions mythiques sur France Inter. Il est le sujet de notre prochain épisode.
Feedback.